Cette semaine sur RCF, trois journalistes et Charles de Clercq vous donnent rendez-vous pour un débat. Quatre critiques cinéma sans coup. Voici les quatre sans coup.
Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir deux habitués de l'émission et un nouveau. Tout d'abord, Eric Van Kutsem, bonjour.
Bonjour Charles.
Vous êtes responsable du site synopsis.be.
C'est tout à fait ça.
Critique en ligne. Et ensuite, Stanislas, bonjour.
Bonjour Charles.
Alors, je dois prendre une liste hein, parce que c'est à la fois freelance pour le Soir Mag, c'est oui. aussi consultant pour Série Reviewer, c'était auparavant Série Corner sur la RTBF.
Qui s'appelle dorénavant le Corner Série, on a été chercher très loin
remoutée. Ok, exactement. Et aussi pour freelance pour Sudinfo.
Tout à fait, et Métro.
Et Métro, oui, de fait, Métro. Et enfin, le nouveau, c'est Alain Lorfèvre. Alain, bonjour.
Bonjour Charles.
Et vous, c'est La Libre Belgique et donc... Aujourd'hui, nous allons non pas parler de trois films, mais tout d'abord une petite indication sonore. C'est un extrait de la bande-son d'une série Netflix, Squid Game, une série qui est sortie depuis le 17 septembre dernier et qui a fait très vite le buzz parce qu'on en a parlé dans les cours de récréation. J'ai vu cette série et je me suis dit, tiens, c'est pas du tout ce qu'on en dit dans les médias, il y a autre chose. Et j'avais parfois l'impression que ceux et celles qui faisaient écho de ce qui se passait dans les cours de récréation n'avaient pas vu la série. Alors j'ai décidé d'inviter des confrères... dont notamment Alain qui connaît bien le cinéma asiatique. On va parler du cinéma coréen. Alors, prévenir les auditeurs, si vous ne souhaitez avoir aucun spoiler, il vaut peut-être mieux ne pas écouter parce que ce sera difficile de ne pas divulgâcher certains moments de l'intrigue. Qui a envie de se lancer à l'eau, une première réaction par rapport à cette série ? Eric, peut-être ?
Oui, mais moi, je me suis plongé dans la série et on en discutait avec Stan un peu avant, alors que le buzz n'était pas encore tout à fait présent. C'était plus par le hasard de Netflix qui, comme d'habitude, nous mettait ça en top 2 ou en top 1 ou en top 3, peu importe. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, une série coréenne, pourquoi pas. Je suis assez amateur de films fantastiques coréens, donc je me suis dit, c'était une bonne idée de regarder ça. Le sujet me paraissait aussi un petit peu fantastique en regardant le résumé. Et je me suis dit, c'est probablement intéressant à regarder. Effectivement, je suis rentré dedans. Je suis assez bien vite rentré dedans et j'ai trouvé ça que ça correspondait assez bien au cinéma coréen que je connaissais, avec des choses évidemment qui sont propres aux séries. Et voilà. Et donc, je me suis retrouvé embarqué dans Squid Game et je n'ai plus arrêté avant la fin pour connaître bien sûr la fin. Forcément.
Et vous, Stan, vous avez fait une infidélité à OVIO, donc en vous penchant sur Netflix, mais il y a de bonnes choses aussi sur OVIO et sur Netflix, bien sûr.
Oui, il faut connaître de tout pour pouvoir bien travailler dans son jardin. Moi, c'était l'inverse d'Eric, justement, pour la découverte de la série. J'en ai entendu parler, un peu comme vous, Charles, avec tous ces articles qui parlaient du buzz, qui parlaient des dangers de la série. Et donc, je l'ai regardé en me disant qu'elle n'allait pas me plaire. Et j'ai été surpris de voir un contenu bien plus intéressant que ce que les images criardes de certains magazines ou certaines premières laissaient à penser.
Et vous, Alain, vous l'avez vu à un premier et un second degré, je suppose.
Oui, mais je suis un peu comme vous trois, en tout cas comme vous, Charles, et comme vous, Eric, c'est-à-dire que j'ai à la fois d'abord entendu le buzz. Enfin, j'avais vu la série apparaître aussi sur mon compte Netflix. Je l'avais mise un peu de côté parce qu'on a beaucoup de choses à regarder, donc j'avais pas trop le temps. Je me dis, si ça m'accroche, je risque d'être embarqué pour de nombreux épisodes, donc je m'étais réservé ça pour plus tard. Et puis le buzz a pris. Et malheureusement, comme beaucoup de médias, le mien a réagi sur le buzz sans que personne n'ait vu la série, ce qui m'a profondément choqué en tant que journaliste et même un peu énervé. J'ai eu l'occasion d'en parler avec mes rédacteurs en chef. C'est un peu le problème qu'on a, c'est qu'on entend ce buzz négatif qui est venu notamment d'un post Facebook venant d'une école ici en Belgique, qui a indiqué que des enfants reproduisaient des scènes de violence de la série. Ce qui déjà me surprend très fort, parce qu'on a tous reproduit des scènes de films, de western, de films de guerre quand on était gamin dans la cour de l'école. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est tous devenus des assassins ou des psychopathes. C'est un phénomène un peu normal. Alors que les enfants aient vu cette série, alors que Netflix la recommande à partir de 16 ans et plus, ça c'est un autre problème. Et je pense que ce n'est pas la responsabilité de Netflix, c'est la responsabilité des parents qui laissent leurs enfants regarder des choses. Donc c'est là qu'il faut faire le filtre aussi. Et ce buzz s'est emballé de façon un peu idiote. Après, ça sert Netflix aussi, parce que du coup, tout le monde a regardé la série. On l'a tous fait dans la foulée. Moi, j'ai été amené à le faire plus vite que je ne le pensais pour pouvoir réagir de façon un peu plus argumentée sur le contenu de la série. Et comme Eric, j'ai été surpris par ce buzz qui, pour moi, est complètement inapproprié par rapport au contenu de la série, qui dans l'absolu n'est pas plus violente qu'une autre à mes yeux. Quand on regarde des séries comme Walking Dead, par exemple, je trouve Squid Game beaucoup moins violente dans ce qu'elle montre d'un point de vue graphique, même s'il y a une violence intrinsèque qui est liée au sujet de la série, mais qui est une violence qui est le reflet de la société. Donc je trouve que ce buzz ou ce débat a été déplacé dès le départ, ou mal placé dès le départ dans certains médias, où on réagit trop vite sans prendre le temps de regarder les choses et de les analyser.
Oui,
j'étais un peu long, désolé.
Non, il n'y a aucun problème, Alain. Raison d'ailleurs pour laquelle j'ai voulu faire cette émission, parce que ça me semblait vraiment important. Et de fait, on a parlé des cours d'école, mais je me souviens, on jouait aux cow-boys aux Indiens à l'époque, et les Indiens étaient les mauvais, bien entendu. Et donc, on tirait sur les Indiens qui tombaient morts dans la cour de récréation, et on n'écrivait pas dans les journaux à ce moment-là, quoi.
Et on rejouait tous l'épisode de la série qu'on avait vu la veille. Il n'y avait pas Netflix à l'époque, mais on a tous rejoint un épisode, je ne sais pas, moi je suis de la génération des années 70, de Starsky et Hutch, ou de Chapeau melon et bottes de cuir. On l'a tous fait. C'est un phénomène naturel, je pense.
C'est vrai que moi, j'ai été dans des cours de récré dans les années 90 et c'était le film Scream qui impressionnait, on va dire, les adultes et qui nous excitait comme des dingues en tant qu'enfants. On se courait derrière avec des faux poignards. Personne n'est mort.
Donc, vous avez tous vu la série. De fait, il y a des épisodes parce qu'on pourrait peut-être bien résumer un peu de dire ça se modèle sur des jeux d'enfants.
Oui, c'est en fait, il faut peut-être, sans forcément spoiler quoi que ce soit, c'est-à-dire resituer les choses. On va dire que le pitch pourrait être un ensemble de personnes dans la société coréenne qui ont des problèmes souvent de dette et d'argent, qui vont se trouver mis en contact par différents moyens et différents biais, vont se trouver en contact avec la possibilité de gagner beaucoup d'argent dans un jeu dont ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants a priori. Et ils vont, évidemment, puisqu'ils sont intéressés, qu'ils ont envie de gagner de l'argent, forcément, puisqu'ils sont la plupart du temps relativement miséreux, je vais dire.
Ou endettés.
Et ils vont aller participer au jeu et se rendre compte, évidemment, de ce qui se passe dans ce jeu, qui ne sera pas ce qu'ils pensaient au départ, en fait. Peut-être de l'argent facile, mais non, ce n'était pas de l'argent facile, c'est au contraire de l'argent plutôt mortel, on va dire.
Ils sont 456, Stanislas. 456, et quand même, sans trop divulgâcher, mais à un moment donné, ils connaissent les enjeux, les règles du jeu. Après le premier jeu, on les connaît. Ils vont pouvoir quitter le jeu, et pourtant, non, ça dit quelque chose.
Ça dit quelque chose, ça montre bien qu'on parle de démocratie et qu'on parle d'un choix avec une majorité, même si, bien sûr, la situation dans laquelle tous ces personnages se trouvent est totalement extrême. Mais c'est le propos de la série, c'est de montrer que dans notre société capitaliste, en fait, on subit des pressions qui sont peut-être pas très très visibles, mais qui nous poussent à aller vers l'intérêt individuel plutôt que vers l'intérêt général, en gros. Et dans ce deuxième épisode, en effet, quand les personnages ont le choix de quitter le jeu, je vais un peu divulgâcher davantage, ils le font. Moi, ça m'a énormément surpris, parce que ce soit Battle Royale, Hunger Games ou d'autres...
On ne quitte pas le jeu.
Ou même si on va du côté de Hostel, qui mettait pas des personnages les uns contre les autres dans une arène, mais où des nantis, des riches regardent justement des massacres de personnes, on va dire, plus pauvres. Eh bien, j'ai un peu perdu mon film, mais que disais-je ?
Que les personnages de la série choisissent de quitter le jeu.
Ils choisissent de quitter le jeu, et donc ça c'était très surprenant parce que ça arrive rarement dans ces récits-là. On va peut-être le dire, hein, c'est pas un récit neuf, c'est une nouvelle itération d'un récit qu'on connaît bien. Et dans celui-ci, et bien justement le fait que ce soit une série qui ait cet épisode 8, je ne me souviens pas très bien, permet justement d'ajouter cette nuance en plus de c'est vraiment leur choix. Parce que bien sûr, épisode 3, 4, 5, 6, 7, ils vont revenir et ce sera leur choix. Donc ce petit twist narratif permet vraiment de mettre le doigt sur la question de la démocratie. Je trouvais ça intéressant.
Oui, et la question de la société dans laquelle on est et il se trouve, parce que c'est vraiment le reflet d'un monde ultra-libéral, néolibéral à l'extrême. Et donc, si ces gens reviennent, si les joueurs reviennent, c'est aussi parce qu'à un moment donné, ils ont le choix de revenir ou de ne pas revenir, mais matériellement, ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont vraiment dans une situation extrême. Ouais. Et c'est là que je trouve la série, moi, aussi intéressante dans ce qu'elle montre et ce qu'elle dit, non seulement du monde d'aujourd'hui et de la Corée, parce que c'est un des pays qui a la dette domestique la plus importante du monde. Elle est quasiment équivalente au produit intérieur brut de la Corée. Donc les ménages sont terriblement endettés en Corée et beaucoup de gens se retrouvent dans des situations de cet ordre-là, pas au point d'aller participer à un jeu mortel, mais au point d'être vraiment désespérés. Il y a énormément de suicides qui sont liés à des conditions matérielles. Donc ça reflète une réalité. Et je pense que le premier épisode qui dépeint très bien la réalité d'un des personnages principaux, pour le spectateur coréen, sud-coréen, il est très vrai dans ce qu'il montre de la réalité de la Corée du Sud aujourd'hui.
Et d'autant que c'est un acteur assez connu et qu'il joue à contre-emploi par rapport à son jeu habituel dans le cinéma coréen.
Oui, effectivement.
Je vous propose de faire une pause avec un premier extrait de la bande-son de Squid Game. Le choix des morceaux musicaux est un peu arbitraire. Enfin, il y avait une contrainte. C'était des morceaux pas trop longs pour laisser le temps d'échange entre les trois journalistes. Je rappelle Stanislas Hyde, Eric Van Cutsem et Alain Lorfèvre. Mais il y a aussi des morceaux de musique très connus, même de musique classique que l'on entend, ou des musiques enfantines. Donc ici, on joue beaucoup sur les percussions. On peut réagir seulement sur cet aspect enfantin de la musique et de l'univers des jeux.
Je pense que c'est une image pour parler de la façade du consumérisme excitante, le fait qu'on vit dans un monde où tout va bien. Et en fait, derrière justement ces chansons américaines aussi, parfois j'ai l'impression qu'ils sont vraiment... qui font sourire, qui mettent de bonne humeur, mais qui sont associés à des images de violence vraiment très, très intenses, eh bien, elle fait passer cette idée que notre société nous cache quelque chose d'en fait... finalement, qu'on peut toucher assez rapidement si on le regarde droit dans les yeux.
Il y a aussi le côté très acidulé des décors, des couleurs très vives, un peu pop. On a vu sur les photos, les images que les auditeurs ont pu voir un peu partout, qui crée aussi un peu cette espèce de décalage. Et c'est peut-être aussi ça qui a pu, entre guillemets, choquer certaines personnes au départ. C'est ce décalage entre la violence suggérée ou intrinsèque du sujet.
Et l'aspect ludique.
Et cet aspect ludique. Mmh. Et d'un autre côté, il y a aussi un autre aspect par rapport à l'idée d'utiliser des jeux d'enfants que je trouve intéressant, c'est que c'est aussi, je pense, dans la dimension peut-être un peu métaphorique, voire vaguement politique de la série, que le concepteur de la série, dont le nom m'échappe maintenant, assume entièrement, c'est qu'on apprend aux enfants cette idée de compétitivité et de lutte dès leur plus tendre enfance, notamment à travers des jeux qu'on leur inculque où il faut être le gagnant, le winner, et il y a les winners, les losers. C'est un truc qu'on nous apprend aussi dès le jardin d'enfants, en fait. Donc, quelque part, c'est très cohérent d'amener des gens qui sont à l'extrémité de leur vie et au bout du rouleau, de se replonger dans des jeux d'enfance pour essayer de gagner le jackpot, en fait.
Et d'ailleurs, je pense que dans la série, à aucun moment n'est précisé dans les règles qu'il ne doit y avoir qu'un seul gagnant, mais n'importe quel spectateur le comprend dès le début, puisque c'est comme ça que les jeux fonctionnent autour de nous.
Effectivement.
Puis c'est très... Je rajouterais quelque chose sur le côté cinématographique. C'est très cinématographique de faire du contrepoint. Et il est clair que de donner, comme disait Alain, des couleurs vives, de parler de jeu, ça positionne tout dans quelque chose de pop, d'amusant, de plutôt agréable. Et donc, c'est assez fort comme contrepoint cinématographique. Et tout ce qui va se passer, évidemment, va frapper l'imaginaire du spectateur bien plus que si on était dans quelque chose qui soit, dès le départ, dramatique, très, très lourd. Ici, non. À chaque fois qu'il y a quelque chose d'horrible qui se passe, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses très horribles qui se passent, et une violence qui est quand même... qui est là, hein, on ne peut pas le nier, eh bien, c'est clair que quand cette violence est là, il y a ce côté pop qui est là pour rappeler, tiens, oui, finalement, on est dans quelque chose d'amusant, on parle de jeux, c'est amusant aussi, ce sont des jeux pour enfants, ce n'est pas des jeux d'adultes. Et donc, je pense que tout ça rajoute quelque chose à la force du propos, évidemment. On est beaucoup plus enclin à voir les choses horrible qui se passe en se disant oh, oui mais c'est ça qui se passe, ou même la dramaturgie qu'il y a est renforcée par ce genre de choses. Enfin, c'est une autre vision plus cinématographique là, ou plus visuelle des choses, quoi, évidemment.
Et autant que j'ai bien suivi la préparation du dossier par l'organisateur, il voulait aussi des jeux qui parlent au coréen, mais en même temps Netflix mettait une contrainte qu'on puisse les comprendre partout dans le monde, puisque c'est ça la règle Netflix, c'est que c'est aussi un produit commercial, il faut qu'il soit vendu et compris un peu partout dans le monde.
Enfin, le jeu principal, Squid Game, était quand même un peu complexe à comprendre.
Oui, c'est ce que j'allais dire, oui.
La dernière épreuve, vous voulez dire.
La dernière épreuve, et d'ailleurs, moi c'est un des rares éléments dans la série qui m'a un peu éloigné du divertissement, c'est le fait que ce jeu est présenté donc à une élite qui est présentée comme américaine, en tout cas anglophone, et ils ne savent absolument pas les règles de ce jeu. On les voit d'ailleurs en train de questionner les règles de ce jeu, et je ne comprends pas à la fin comment ils peuvent profiter de ce spectacle, mais c'est vraiment pour couper les cheveux en quatre, quoi.
Ça, c'est la petite suspension de crédulité de la série, mais bon.
Oui, mais on l'accepte assez facilement. Ouais. Quand on est arrivé au jeu précédent, on accepte facilement.
Oui, pour le spectateur, par contre, le Squid Game est relativement bien expliqué, parce qu'il est expliqué au début et il est assez clair. Alors, même si on l'a oublié un peu, à la fin, il y a ce récapitulatif et on arrive à rentrer dedans relativement bien. Mais là où je suis d'accord avec Stan, c'est que, évidemment, les gens qui sont censés regarder au travers dans la série, eux, par contre, bon, je ne suis pas sûr qu'ils aient eu toutes les explications nécessaires. Peut-être qu'on leur a fait un petit leaflet, tu vois, une petite chose comme ça qui serait un communiqué de presse pour expliquer comment ça fonctionne. Un teaser, je ne sais pas.
Il y a les jeux, il y a aussi les interactions entre les personnages. Avant d'arriver à la culture coréenne, mais il y a des interactions. Donc, on ne voit pas les 456 personnes, mais on en a choisi une dizaine, grosso modo, qui ont une personnalité assez typique, même si l'un d'entre eux, le 456, est beaucoup plus mis en avant. Mais il y en a d'autres qui sont là, et les interactions entre eux me semblent dire quelque chose de la façon de vivre de ces gens, d'une classe où on est complètement paumé dans la société.
Oui, effectivement. Après, c'est un principe de dramaturgie un peu classique. On a effectivement un personnage auquel on s'attache un peu plus et dont on connaît un peu plus le background familial et personnel, qui permet, je pense, d'avoir un élément d'identification pour le spectateur. Et puis après, effectivement, un panel d'autres personnages qui permet d'avoir des interactions et de garder un suspense épisode après épisode, essayer de savoir qui va survivre, qui va disparaître, qui va s'allier avec qui. Donc c'est ce jeu de un peu de tension qui est nécessaire pour garder une dramaturgie épisode après épisode.
Et chaque personnage va incarner une réponse à la thématique centrale de la série, c'est comment est-ce qu'on réagirait dans une démocratie qui est en perdition, on va dire, quoi. Et si on était mis surtout sous pression, que ce soit ici par l'argent, mais ou d'une autre façon, chacun des personnages va incarner une réponse à cette question. On a le vieux. Je le nomme comme ça parce que je me souviens. Ah ben non, je me souviens de son numéro, c'est le numéro 1. Lui va incarner justement plutôt une certaine sagesse, on va dire, et aussi une expérience, puisque c'est finalement lui qui joue le mieux au jeu, alors qu'il est complètement faible et qu'à chaque fois il est écarté par les autres joueurs. On a la jeune fille, la jeune voleuse, qui elle va incarner l'extrême de la pauvreté. Il y a le banquier aussi, le banquier endetté, qui va incarner l'hypocrisie d'une certaine bourgeoisie. Donc chacun de ces personnages va donner une réponse très différente, et j'imagine que les scénaristes, comme pour tout scénariste de série, se sont dit ok, chacun de ces personnages ne peut apporter la même réponse, et c'est pour ça que ça marche très très bien. Ils ont bien fait leur boulot, ils offrent une palette très très riche.
Et l'acteur, enfin le joueur numéro 1 est un des plus anciens acteurs de la scène coréenne. Donc, connu des spectateurs coréens. Parce que c'est d'abord le premier public, il ne faut pas oublier. Ouais. C'est d'abord une série destinée au marché coréen, même si on vise l'international.
Il y a aussi le personnage du migrant pakistanais, oui, qui incarne le sans-papier version Asie et version coréenne, qui est exploité et qui, lui, vient de la scène de la K-pop. Donc, c'est un chanteur, danseur d'origine, je ne sais plus s'il est pakistanais.
Oui, réellement. Enfin, dans la série, il est pakistanais. Voilà.
Mais c'est une star locale là-bas, très connue, et donc qui est aussi un élément, un produit d'appel pour les spectateurs originaires du marché asiatique.
Il y a d'ailleurs beaucoup d'acteurs dans des séries ou des films coréens qui sont dans ce milieu à la fois musique, danse, chant, et qui mêlent les deux, et qui sont, d'ailleurs pour certains, si j'ai bien compris, ils peuvent même retarder le service militaire parce qu'ils apportent des royalties au pays par leur popularité.
Ça, c'est un vrai mécanisme de la politique, si je puis dire, économique et culturelle coréenne. Si, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle,
oui, on peut y en parler.
On peut détailler. Donc en fait, c'est ce qu'ils appellent, c'est leur nouvelle vague coréenne qu'ils appellent Hallyu. Donc, il y a vraiment un principe qui a été, c'est presque une politique culturelle d'État qui a été mise au point en Corée dans les années 90 et qui s'est intensifiée dans les années 2000, et dont on voit le résultat notamment avec le succès du cinéma coréen, de la K-pop et des séries coréennes aujourd'hui, notamment via Squid Game sur Netflix. Et en fait, ils ont vraiment des espèces d'incubateurs de stars. Donc il y a des concours de sélection de jeunes adolescents dès l'âge de 10-12 ans qui sont sélectionnés, un peu l'équivalent de The Voice. On leur signe un contrat et on leur fait un plan de carrière sur quasiment 10 ans. Donc ils vont d'abord commencer par une carrière dans la K-pop, ils vont passer à la série télé, éventuellement au cinéma, et après ils deviennent producteurs s'ils ont envie. On les forme vraiment à ça, et c'est un travail sur le long terme, et les meilleurs effectivement subsistent. Donc c'est aussi le même principe de compétitivité que le
dans
jeu.
Squid Game,
d'une certaine manière, c'est ceux qui sont les meilleurs, qui s'en sortent le mieux, deviendront les stars et feront une carrière pendant 15-20 ans.
Ce qui voudrait dire aussi que, c'est un élément que je n'avais pas pensé, mais que le jeu lui-même, enfin la série, dit quelque chose de la compétition dans le milieu coréen.
Certainement, oui, moi je pense. Après, c'est un pays qui est assez remarquable à plein d'égards, et on apprécie, on n'apprécie pas, mais ils sont sortis exsangues de la guerre civile à la fin des années 50. C'était un pays qui, avant la guerre, était encore globalement rural et pas du tout industrialisé. Ils se sont industrialisés dans les années 60-70 et ont rattrapé la plupart des nations industrielles dans les années 80. C'est un peu l'équivalent du miracle japonais, mais avec un décalage d'une dizaine d'années. Donc ils ont cette espèce de retard de 10 ans à tous les niveaux, y compris dans le déclin économique qui commence à s'annoncer depuis une dizaine d'années en Corée, avec la crise de 2008 notamment, et la crise financière asiatique au début des années 2000, et qui crée aujourd'hui ce décalage dans la société coréenne avec cet endettement, ces personnes qui se retrouvent sur le carreau. Il y a un épisode dans la série où on voit que le personnage principal évoque un souvenir d'une grève dans une usine d'automobile et qui laisse environ 2600 personnes sur le carreau. En fait, il fait référence à un épisode réel qui s'est déroulé il y a une dizaine d'années en Corée, une grande entreprise automobile a fermé et il y a eu énormément de personnes licenciées et des suicides consécutifs à ça aussi. Donc c'est vraiment de nouveau quelque chose qu'on connaît dans nos sociétés aussi et qu'on a connu en Europe dans les années 80-90 et qui en Corée apparaît depuis une vingtaine d'années et qui est le reflet de cette société qui a connu une croissance économique extraordinaire dans les années 80-90 et qui maintenant commence à connaître un déclin, un vieillissement de population comme le Japon le connaît depuis une trentaine d'années.
Je vous propose de passer à la deuxième pause musicale.
Thank you.
Pendant la pause musicale, on a discuté de cet écart de 10 ans entre le Japon et la Corée. Et Eric, vous aviez envie d'embrayer sur ce point.
Oui, c'est intéressant de ce qu'Alain avait dit parce que c'est ce décalage entre les politiques culturelles d'un pays ou de l'autre a amené effectivement un décalage au niveau cinématographique aussi. On a eu dans les années 90, la fin des années 90, une dominance du cinéma japonais. Et ici, je parle dans un domaine que je connais relativement bien, qui est le fantastique. Et dans ce domaine fantastique, on a vraiment une prédominance du Japon. Le Japon a portait un renouvellement de ce cinéma qui est quand même un cinéma d'imaginaire très fort et donc ça a été très intéressant. Et puis on a vu dans les années 2000, au début des années 2000, ce cinéma petit à petit se répéter, reprendre les mêmes choses et le cinéma coréen arrivait et lui proposait des choses qui étaient différentes. Hein. Ici on peut parler de Park Chan-wook ou des choses comme ça qui ont amené avec Old Boy, Lady Vengeance, ce type de films qui ont amené un autre regard, une autre vision. Bien sûr, il y a Bong Joon-ho qui était là avec The Host, qui était avec d'autres films qu'il a fait. Et on a vraiment vu cette apparition-là. Et c'est assez amusant, je trouve, de comparer qu'effectivement, les politiques ont eu cet impact aussi de notre côté. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître ces films. Il y a eu le Festival du coréen qui est venu qui s'est monté en Belgique, hein, je crois que c'est le 7e ou 8e maintenant,
9e,
pardon, je suis un peu en retard, mais donc le 9e, et on voit que en 9 ans, on a vu des films très très différents, beaucoup de films thrillers aussi qui étaient très intéressants, donc ils ont amené quelque chose d'autre dans le cinéma, et donc c'est pas anodin qu'on voit maintenant une série comme Squid Game apparaître, et qu'elle charme le public, parce que déjà, je dirais, un public peut-être plus... Oui, voilà, plus dans le film de genre, était déjà habitué à voir ce que le cinéma coréen pouvait proposer. Donc, je pense que c'est une continuité. Alors, combien de temps ça durera, ça c'est peut-être plus difficile de se faire une opinion, mais je pense que c'est intéressant de faire ce parallèle entre les deux.
Le BIF, d'ailleurs, présentait de temps en temps des films coréens.
Oui, on en voit beaucoup, oui, tout à fait.
C'est là qu'on a commencé à en découvrir énormément, notamment... Au début, Kim Ki-duk a fait des films qui étaient un peu assimilés à du fantastique ou à du thriller. Et les premiers films de Kim Ki-duk en Belgique sont passés au Festival du film fantastique, notamment. Et dans la foulée, après, on a vu les autres.
Oui, et Kim Ki-duk est un cas très intéressant dans le cinéma coréen parce que c'est vraiment quelqu'un qui bouleverse complètement tous les codes, qui amène une vision. Et là, on parle avec Squid Game de différences de classe et autres et de problèmes d'endettement ou de problèmes d'environnement en Corée. Et Kim Ki-duk, il est en plein dedans. Il met le doigt partout où ça fait mal, je pense, en Corée. Hein. Et je dirais que il va même plus loin puisqu'il met le doigt où ça fait mal partout dans le monde. Mais en tout cas, il est très provocateur à ce niveau-là.
Ce n'est pas tous des films de genre printemps, été, automne, hiver, printemps. Hein.
Non, clairement, non. Mais bon,
il y en a aussi après, hein, parce que c'est un cinéma qui est justement très diversifié, qui contient aussi un cinéma d'auteur. Je pense à un film comme Poetry, par exemple. On a vraiment une palette assez large de création et de production en Corée du Sud, comme au Japon, d'ailleurs, et comme j'aurais tendance à dire dans tous les pays du monde, d'une certaine manière. Après, il y a effectivement ce qui arrive chez nous, Et la manière dont ça arrive, donc via parfois effectivement des communautés de cinéphiles, le cinéma de genre pour c'est toujours très porteur forcément, parce que c'est là qu'on a les niches de spectateurs les plus actifs qui communiquent le plus entre eux, donc où le buzz peut se faire, où on a vraiment des communautés de spectateurs. Et puis derrière, ce qui est important et qui explique aussi peut-être ce décalage qui est apparu entre la diffusion des œuvres japonaises et des œuvres coréennes, c'est la politique d'État de la Corée du Sud, qui est l'équivalent un peu d'une politique volontariste, ce qu'on appelle du soft power, donc de la diplomatie par la culture. La Corée du Sud est un relativement petit pays, 56 millions d'habitants, ce n'est pas une grande puissance militaire. Ils sont entourés de pays communistes comme la Corée du Nord et la Chine, qui restent des ennemis ataviques, d'une grande puissance commerciale, ancienne puissance colonisatrice qu'est le Japon. Donc pour exister sur la scène internationale, ils ont compris que la culture est un biais très important. Et c'est un des pays du monde aujourd'hui qui investit le plus de son budget annuelle gouvernementale dans la culture et dans la diffusion de sa culture à l'étranger, à tel point que les séries coréennes aujourd'hui en Asie représentent ce que représentaient les séries américaines chez nous et représentent encore d'une certaine manière les séries anglo-saxonnes chez nous. C'est-à-dire que ce sont les séries les plus vues dans les pays asiatiques. Les grandes stars de la télévision en Asie sont des acteurs de séries coréennes. Et il y a même parfois aujourd'hui des acteurs japonais qui vont travailler en Corée du Sud parce qu'ils ont une meilleure diffusion, une meilleure aura en fait, en travaillant pour des séries coréennes.
Est-ce qu'il n'y a pas un système de quotas dans le temps de soutien du cinéma coréen?
Oui, alors il existe encore, il est évolué, je ne connais plus le détail, mais ils avaient fait en sorte de... Alors, comme les États-Unis sont intervenus pendant la guerre de Corée et ont soutenu à bout de bras la Corée du Sud et notamment ont permis le développement économique du pays, ils ont appliqué un peu la même politique que le plan Marshall chez nous après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire d'imposer un certain nombre de... un quota pour les œuvres américaines. Et puis à un moment donné, le gouvernement coréen, je pense, à la fin des années 80, a compris que c'était en train de tuer vraiment la création sur leur territoire. Donc ils ont réimposé un quota minimum d'œuvres d'origine coréenne sur les écrans coréens, ce qui a soutenu effectivement la diffusion du cinéma coréen et qui a amené aussi les producteurs à faire preuve d'imagination pour créer des contenus, pour compenser effectivement la disparition de certains types de films qui étaient majoritairement américains jusque-là. Et ça a porté ses fruits, effectivement.
C'est un de vos acquiescés ?
Non, j'étais en train de réfléchir au fait que c'est intéressant d'imaginer que Squid Game sera peut-être un des premiers succès coréens qui va pas avoir de remake, puisque les Américains l'ont vu. Je sais pas si on le doit à Parasite, je sais pas si on le doit à Netflix et son modèle, mais en fait, ça m'étonnerait vraiment que Squid Game devienne un remake, alors qu'il y a 5 ans, un tel succès aurait eu un remake, mais appelé dans les 2 minutes, quoi. Donc... peut-être qu'il y a aussi quelque chose à réfléchir de ce côté-là.
Effectivement, peut-être qu'un des effets positifs du streaming, c'est que cette diffusion internationale d'œuvres qui viennent de territoires qui étaient plus confidentiels auparavant familiarise le grand public au fait de regarder des séries qui ne sont pas dans leur langue, et notamment le public anglo-saxon qui était effectivement très réfractaire à tout ce qui était étranger et qui voulait toujours voir des remakes ou des versions avec des acteurs connus. Aujourd'hui, on peut se dire que c'est un effet peut-être un petit effet positif de cette forme de mondialisation via le streaming, de se dire qu'on devient... Enfin, nous, on l'était déjà, je pense, dans les pays européens, en tout cas en Belgique, on a toujours été très, forcément, beaucoup plus ouvert comme marché en tant que spectateur. Mais sans doute qu'aux États-Unis aujourd'hui, il y a un public plus ouvert à des œuvres qui viennent de pays non anglophones que ça n'était le cas auparavant.
Puis Netflix double énormément. Hein, donc aussi. Évidemment, ça a l'avantage que les Américains peuvent regarder la série probablement en anglais sans aucun problème. Je n'ai pas été regarder si elle était dans cette langue-là, mais en tout cas, ils peuvent le regarder comme ça. Donc ça facilite beaucoup les choses pour eux puisqu'ils sont fort allergiques aux sous-titres, on le sait bien. Donc... C'est probablement bien. Moi, il y a un truc sur lequel je voudrais rebondir, c'est on parle beaucoup des États-Unis, on parle beaucoup du Japon, on parle beaucoup de la Corée, bien sûr. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la systématique qu'il y a dans des pays qui sont des pays, des grandes puissances économiques, c'est qu'elles ont tendance à ne pas, évidemment quand ça marche bien pour elles, ne pas parler de leurs défauts. Hein, on l'a avec les États-Unis. Les États-Unis ont, pendant très longtemps, bon, ils ont une production cinématographique intense, donc on a eu le loisir de le voir, mais ils ont parlé pendant très peu pendant très longtemps de leurs problèmes endémiques, de leur SDF, ne fût-ce que le SDF, ne fût-ce que les gens qui n'arrivent pas à nouer les deux bouts aux États-Unis. Pour eux, les États-Unis, c'était une grande nation, ça ne pouvait pas arriver. Et on voit que tous ces pays qui ont eu cette chose-là, cette prédominance économique, ils ont du mal à admettre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, c'est vrai qu'au travers des films, on a tendance à voir cette chose-là, parce qu'effectivement, dans Parasite, par exemple, on exprime cette problématique-là. Le réalisateur met en évidence ce qui ne va pas dans la société coréenne. Et on a eu beaucoup d'exemples aux États-Unis de films qui ont mis en évidence ce qui n'allait pas dans la société américaine. Plus le pays a envie de dire « nous sommes beaux, grands et forts économiquement », plus il y a un cinéma qui vient dire « écoutez, regardez un peu à côté, mais il semble qu'il y ait des choses qui ne vont pas ». Et Squid Game, là, le met alors vraiment, lui, bon, paf, il rentre dedans, il le met en évidence. Ce qui ne plaît pas toujours probablement au pays d'origine, hein, je suppose que là...
Je vous propose de passer à la troisième pause musicale et on aura encore un temps de débat ensuite. Nous voici de retour pour le quatrième débat. Je rappelle que nous avons parmi nous Eric Van Kutsem de Synopsis.be, Stanislas Hyde du Soir Mag, de l'RTBF et de Sudinfo et de Métro, et Alain Orfèvre de La Libre. Nous allons poursuivre nos débats, mais une chose qui me semblait importante, c'est que la série tenait bien à la fois cette option de pouvoir réfléchir à la société coréenne, mais aussi quelque chose de bien construit, qu'on a envie de la voir et d'arriver à l'épisode suivant. Stan.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris.
Non, de dire la série tient les deux choses à la fois. C'est une série qui permet de réfléchir et en même temps, elle a quelque chose d'addictif dans sa construction.
Ah oui, totalement. D'ailleurs, c'est très bien comme ça, je trouve. Il ne faut pas avoir peur du divertissement, mais avec des sujets très très sérieux. Tant mieux. Et elle le fait très très bien. Par contre, moi, ce qui m'a étonné, et apparemment c'est propre aux séries coréennes, c'est que le rythme change constamment. La tonalité aussi un peu. Je pense que le quatrième épisode, c'est que des discussions. Ils sont assis par terre en train de se parler. Il y a d'un coup plus d'action, il n'y a plus de meurtre. Enfin, ça rôde, hein, bien sûr. La série arrive à justement utiliser ce mécanisme de cliffhanger. Donc, c'est le mécanisme qui veut qu'à la fin d'un épisode, on a absolument besoin de voir le suivant parce qu'on est en plein doute par rapport à l'issue d'une scène. Eh bien, ici, il l'utilise très très bien, mais en s'autorisant totalement à ne pas répéter à chaque fois la même mécanique, à avoir des épisodes qui vont être complètement différents à chaque fois. Ça m'a beaucoup plu.
Une série aussi avec différents personnages. Il y a un meneur de jeu. Là, on va pas du tout spoiler sur le meneur de jeu, mais il y a les joueurs et il y a ceux qui les surveillent, qui ont un même habit avec simplement un logo qui change. Il y a trois logos différents. Et donc, ils sont invisibles en quelque sorte, quasiment tout le temps.
Oui, et il y a aussi un intrus qui apparaît assez vite et qui crée aussi un élément de suspense et de médiation pour le spectateur qui nous permet de découvrir à travers ses yeux les coulisses du jeu. Sinon, on ne les verrait pas. Si on était uniquement du point de vue des joueurs, on ne verrait pas ce qui se passe au-dessus, si je puis dire, dans la cabine de commandement.
Oui. Et les coulisses du jeu, justement, vous en avez parlé, on voit des invités très riches qui viennent assister aux dernières phases du combat. Et donc, voilà, c'est...
Ça sont des vieux principes aussi de la fiction un peu dystopique. Hein, si on repense, moi j'ai recité dans mon article incidemment les chasses du comte Zaroff, qui est un aristocrate qui vit sur une île, un chasseur qui a traqué tous les types d'animaux sauvages possibles et inimaginables, et qui s'ennuie et qui finit par chasser l'être humain. En fait, c'est un principe un peu qui revient souvent aussi dans la fiction, cette idée qu'une élite un peu dévoyée finit par utiliser son argent pour chasser des gens beaucoup plus pauvres et démunis. C'est vraiment la vision extrême aussi de la plutocratie et du capitalisme.
Et c'est quelque chose qu'on observe dans la plupart des films ou séries auxquels Squid Game a été comparé. On disait tout à l'heure Hostel, il y a la société du spectacle dans Hunger Games. J'ai l'impression que c'est quelque chose. Escape Room aussi, voilà, dans les films d'horreur, il y avait Escape Room. On voit à la fin en fait que c'est des riches qui sont en train d'organiser tout ça. Et je dois dire qu'ici, dans Squid Game, c'est très bien amené, mais c'est pas la partie qui, moi, m'a le plus convaincu. On s'est beaucoup moqué sur la toile des acteurs qui jouent justement ces nantis. Alors, je sais pas s'ils sont mauvais, mais en tout cas, il me semble qu'ils n'ont pas été super bien dirigés. Et c'est les scènes, pour moi, qui marchent un peu le moins bien dans Squid Game.
C'est vrai.
Oui, c'est peut-être révélé un peu. J'ai l'impression que ça sort un peu comme ça du chapeau, et c'est peut-être ça qui fait qu'on est choqué sur leur prestation d'acteur. J'ai plus l'impression, vraiment, c'est pas forcément la prestation d'acteur qui m'a gêné, mais c'est vraiment le côté de pop, on sort quelque chose du chapeau. Voilà, il y a quelqu'un qui est là et qui regarde et qui observe et qui paye pour ça. Et bon, c'est le Deus Ex Machina de la fin. C'est difficile, hein, évidemment, d'amener quelque chose, encore un suspense supplémentaire ou en tout cas une surprise supplémentaire. Mais il y a tellement de surprises dans la série elle-même que celle-là peut-être est moins bien construite. C'est possible. Moi, je l'ai vu comme ça. Je l'ai vu comme une surprise pas trop bien construite dans la série.
J'ai eu l'impression d'une pièce rapportée parce qu'il fallait répondre à une question, mais pourquoi ces jeux ? Et que peut-être c'était un peu artificiel. Il ne faut pas oublier qu'au départ, le réalisateur voulait en faire un film. Et donc, il a patienté pendant 10 ans. Et puis, quand il faut faire une série, je suppose qu'il y a un cahier des charges. Il faut un certain nombre d'épisodes, un certain nombre d'acteurs, et répondre à certaines cases.
Oui, sans doute. Et le fait est que ces personnages-là sont un peu plus esquissés ou caricaturaux. Et que la série, peut-être s'il y avait eu plus d'épisodes, auraient pris le temps de les développer un peu plus, mais en l'occurrence, sont des personnages qui restent plus des silhouettes et des stéréotypes, en fait. Là où les personnages du jeu, les joueurs, on a plus le temps de les découvrir et de les faire exister sur la durée de la série. Et du coup, ils ont une épaisseur beaucoup plus intéressante.
Mais c'est le grand méchant qui est derrière. Hein. Oui. C'est, entre guillemets, il pourrait être représenté par n'importe quoi. Il est juste ici. Il avait besoin d'être représenté par une sorte d'ogre capitaliste. Mmh. C'était ça l'intérêt. Mais sinon, c'est vrai qu'on aurait pu utiliser autre chose.
En tout cas, apparemment, on n'avait pas prévu que la série ait un tel succès. Je ne pense pas que même dans le rêve, on n'avait pas pensé que ça marcherait bien. Et donc, au départ, on n'avait pas prévu une suite. Il y en aura peut-être une, le réalisateur se pose des questions, mais on n'avait pas prévu. Et donc, ce n'était pas un élément important, à mon avis, à vouloir développer. Il fallait répondre à la case du nombre d'épisodes, un point, c'est tout.
Et peut-être ajouter des personnages anglophones pour Netflix.
Peut-être bien, oui, parce qu'il y a aussi ce cahier des charges. Hein,
donc... Je sais que Arte, quand ils donnent de l'argent à des produits qui ne sont pas francophones, ils imposent quand même un personnage francophone. Donc Netflix doit certainement faire bien pire.
Oui.
Oui, à voir, oui, il faudrait.
Je ne sais pas si une suite. Bon, après, la tentation est toujours là et on sait comment ça marche. Mais
parfois, ça marche mal.
Est-ce que ce serait une bonne idée? Je ne sais pas. C'est bien. Là, je trouve que le sujet, la série se tient bien en une saison. À ce stade-ci, et qu'il a réussi à construire quelque chose qui tient à la route et qui se clôture d'une façon... On peut toujours discuter de la fin, on ne va pas en parler ici, mais je trouve qu'elle est, à sa manière, satisfaisante. En tout cas, il y a quelque chose d'intéressant dedans.
Stanislas, vous acquiescez?
Oui, je partage totalement l'impression d'Alain. Ce serait vraiment plus dangereux qu'intéressant de continuer à explorer ça. Et même l'éventuel clin d'œil qu'on peut ressentir à la fin de la série, disant bah, « il y aura peut-être une suite », ne m'intéressait déjà pas beaucoup. Donc moi, en tout cas, je ne serais pas trop curieux. Et je ne pense pas qu'ils vont pouvoir appuyer ce propos dans une saison 2, sauf si alors ils changent justement de propos ou de questions. Mais continuer à questionner nos libertés dans une démocratie qui nous pousse justement à aller vers l'intérêt individuel plutôt que général, je ne pense pas qu'il y a quelque chose à dire en plus dans Squid Game.
On ne peut pas refaire le coup de la Casa del Papel, hein. Parce qu'on a vu que ce que ça donne, ça commence bien, et puis après, on sent qu'on tire et qu'on rallonge le vin.
Je ne sais pas pour vous, mais je me suis arrêté en cours de route dans la cassette.
J'ai abandonné. Donc.
Les producteurs ont toujours de l'imagination quand il faut
créer
du buzz et de l'argent.
Le problème est là, sur Netflix, dans beaucoup de séries. Hein, moi, je regardais 3%, par exemple, qui est aussi une série dystopique sur effectivement des gens. Ça se passe, si je me rappelle bien, c'est Colombie, ou en tout cas, bon, Amérique du Sud, et ce sont des gens qui vivent très mal dans une banlieue, tandis qu'il y a des gens qui vivent dans un coin paradisiaque, une île paradisiaque, et pour passer de l'un à l'autre, il y a 3% de gens qui pourront passer, qui vont passer un concours et une sorte de concours à la fois physique et mental pour arriver à aller de l'autre côté. La première saison était impeccable. La deuxième saison part vraiment dans tous les sens et il y en a 4 saisons. Et moi, j'ai dit, je regarde la deuxième saison, c'est fini, j'arrête parce que je ne veux pas voir le troisième et le quatrième, même si c'est peut-être bien. Hein, mais en même temps, j'ai été dégoûté par cette deuxième. Donc, j'ai peur que Squid Game n'échappe pas à cette malédiction-là, malheureusement.
Ce sera le mot de la fin pour Squid Game. Donc, une série à voir, malgré tout ce que vous avez pu entendre dans des journaux qui ont parfois écrit trop vite ou dans des médias qui ont parlé trop vite sans avoir vu la série. La série, elle est violente, mais elle oblige et elle incite à réfléchir. Et donc, je vous remercie, mes invités, d'en avoir parlé pour nos auditeurs de RCF. On va passer maintenant à la dernière partie de l'émission, amicalement vôtre ou amicalement nôtre. Vous aurez reconnu le thème, qui était aussi celui du film Nocturama de Bertrand Bonello. Je rappelle que pour cette partie, mes invités ont chacun 1 minute 30 environ pour un coup de cœur, un coup de gueule ou les deux. Et donc, il n'y a pas de débat. Et pour commencer avec les habitués, je commence par Eric.
Merci, Charles. Je vais peut-être avoir un coup de cœur pour un film que j'ai vu ce matin, qui était en vision de presse, qui était The Power of the Dog. Le film de Jane Campion, qui sera également sur Netflix. C'est intéressant, puisqu'il sera aussi sur Netflix. Je me demande d'ailleurs le succès qu'il aura sur Netflix. Donc, c'est un très beau film à plein de points de vue. vraiment. Non seulement formellement, hein, la photographie est splendide, et c'est d'ailleurs pour ça que je me demande ce qu'il fait malheureusement sur Netflix, parce qu'au niveau télé, ça ne sera pas extraordinaire de ce côté-là. Donc en fait, c'est un film, pour le pitcher en très peu de secondes. Ce sont deux frères qui sont des cow-boys, qui ont un ranch, quand même des cow-boys, mais des cow-boys modernes, on va dire, puisque ça se passe en 1925. Ils ont un ranch, ils sont très différents l'un de l'autre. Et l'un d'entre eux va tomber amoureux d'une jeune femme et épouser cette dernière. Voilà, ça c'est le pitch de base. Le film explore non seulement les relations entre ces deux frères, les relations avec cette femme qui arrive, qui a un enfant, parce que son mari est mort précédemment. Et le film traite de multiples choses avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent, le talent de Jane Campion. Ça part dans beaucoup de sens, mais ici, je le dis en bonne part, c'est vraiment très, 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 très bien fait, à tel point qu'il y a à la fois du thriller, à la fois quelque chose de sociétal. Enfin, c'est vraiment un très bon film à voir quand il sortira.
Merci Eric. Stanislas, coup de cœur ou coup de gueule ?
Ce sera un coup de cœur lié à Squid Game, c'est une autre série, elle s'appelle Succession, c'est une série de HBO, vous connaissez probablement. Je la trouve liée à Squid Game puisqu'on parle quand même de la fascination pour le pouvoir et pour l'argent. Voilà. Donc on est dans le monde des ultra-riches avec un patron des médias, une sorte de Rupert Murdoch fictif joué par Brian Cox et ses enfants. La série, là on en est à la saison 3, mais au départ la question c'est, une fois qu'il tombe malade, qui va-t-il choisir pour reprendre les rênes de sa boîte ? Et il va faire ça avec la cruauté qu'un père ne devrait jamais avoir et qui est assez intéressante à regarder pour nous, les spectateurs. Il y a énormément d'humour, j'adore la musique, aussi du générique. Et là, cette saison 3, me semble, jusqu'ici, il n'y a que 2 épisodes qui sont sortis, ou 3, j'en ai vu que 2, elle semble, si pas aussi bonne, encore meilleure. Quoi. Je m'amuse beaucoup avec cette série. Et si vous aimez Squid Game, c'est intéressant de réfléchir au même sujet avec Succession.
Succession. Donc HBO, donc c'est Canal Plus ou...
Je pense que c'est sur BTV chez
nous. BTV, oui. Et enfin, Alain, le coup de cœur ou le coup de gueule pour la fin ?
Alors, ce sera un coup de cœur et je suis déjà très content d'être venu pour avoir entendu amicalement votre le morceau de John Barry que j'adore et qui me ramène à mon enfance. Donc déjà, ça, c'est un coup de cœur aussi. Mais mon coup de cœur cinématographique du moment, des dernières semaines, c'est Illusion perdue de Xavier Giannoli, que je trouve vraiment remarquable et très réussi. Donc, adaptation de Balzac, l'histoire d'un jeune poète qui monte à Paris au début du 19e siècle pour essayer de faire carrière. Il se rend compte que les maisons d'édition, il est inconnu, qu'il n'a pas le réseau. Donc il échoue un peu dans les bras d'un jeune journaliste ambitieux qui est joué par Vincent Lacoste, je vais y arriver.
Et c'est
Benjamin Voisin, qui est un jeune acteur français remarquable qu'on a déjà vu dans quelques films et qui l'a vraiment pour son vrai premier rôle et qui est absolument remarquable d'un bout à l'autre du film. Et donc, il va lui-même devenir un journaliste critique théâtral et littéraire. Et le film dévoile un peu les travers d'une certaine critique parisienne qui peut se laisser un peu influencer ou manipuler, voire même acheter, en tout cas à l'époque. Donc, ça montre un peu les dessous pas reluisants de notre profession, mais ça correspond à une certaine réalité. Et Giannoli a fait ce film, effectivement, en pensant, évidemment, à 2021, aux fake news, aux réseaux sociaux, à tous les travers que l'on voit aujourd'hui dans la diffusion de l'information. Donc, c'est un film... Un très beau film d'époque, très bien reconstitué, mais qui nous parle d'aujourd'hui aussi. Très bien écrit, excellent dialogue et des acteurs tous formidables, quels qu'ils soient dans le film, d'un bout à l'autre. Moi, je me suis vraiment laissé emporter par ce film, du début à la fin. Et surtout Benjamin Voisin, un acteur qui explose et à suivre dans les prochaines années.
Qui avait déjà été dans l'été 85, notamment, et encore un autre film auparavant.
Oui.
Le Bal des Folles de Mélanie Laurent.
Oui, il joue un second rôle. Il est dans Les Bals des Folles et un autre film dont le titre m'échappe où il jouait.
Un drôle de bonhomme ou...
Oui, c'est ça. Il était vraiment extraordinaire. Moi, c'est là que je l'ai découvert et depuis, je suis sous le charme de cet acteur que je trouve fantastique.
Eh bien, il me reste à vous remercier. Donc, je rappelle que nous avions autour des micros pour cette émission spécialement consacrée à une série Netflix, Squid Game, il y avait Eric Van Kutsem. Eric, un grand merci.
Merci à vous, Charles.
Stanislas, un tout grand merci également.
Merci, Charles.
Et Alain Lorfès, ce fut vraiment un plaisir de vous recevoir dans cette émission.
Plaisir partagé. Merci, Charles.